Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un immense plaisir de retrouver Michel Cotta, Catherine Nagérard-Carrérou et Charles Villeneuve. Bonjour à vous quatre.
Bonjour Pierre.
Au sommaire de cette émission, la France rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour consultation. Réaction épidermique à la suite de la perte par la France d'un contrat de près de 60 milliards de dollars avec l'Australie pour la construction de sous-marins nucléaires. Et ce pour reprendre l'expression de Jean-Yves Le Drian, un coup dans le dos diplomatique. Un nouveau partenariat entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie rebat toutes les cartes de la diplomatie mondiale. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine? C'est le premier sujet de discussion ce matin. Éric Zemmour, candidat au débat. Voilà ce qui ressort de son meeting hier soir à Toulon. Crédité de 7 à 8% dans les sondages, il continue de faire turbuler la course à la présidentielle. Quel impact sur les scores de Marine Le Pen? Quel impact sur les scores des autres candidats? Quelle chance s'il finissait par se présenter? Nous l'évoquerons. Et puis nous reviendrons sur les conclusions du Beauvau de la sécurité. Ce mardi 14 à Roubaix, le président Macron a annoncé toute une série de mesures pour permettre à la police, la gendarmerie de prendre le virage du service rendu aux citoyens. Nous en parlons dans la deuxième partie de l'émission. Voilà le programme, les grandes voix, c'est parti. Mais avant de développer tous ces titres, les grandes voix, une réaction de votre part à la mort d'Abdelaziz Bouteflika. Il avait 84 ans, on ne le voyait plus depuis 2019, il restait dans sa résidence médicalisée après avoir été chassé du pouvoir. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour les Algériens de ne plus avoir Boutef, comme on l'appelait?
Pas grand-chose sûrement,
Gérard Carrérou.
Pour l'instant pas grand-chose, mais ce que je dirais dans deux mots, ça avait été un assez bon ministre des Affaires étrangères pendant 14 ans. Après, il avait été 20 ans à bourlinguer un peu partout dans les pays arabes. Il est revenu comme président. Ça n'a pas été un bon président. Le niveau de vie du peuple algérien ne s'est pas amélioré pendant ces 20 années. On y ajoute la corruption et le népotisme. Et ça donne le bilan de M. Bouteflika, paix à ses cendres.
Moi, je voulais dire à peu près la même
Michel
chose.
Michel Cotta.
Je voulais dire à peu près la même chose. Je l'ai connu comme ministre des Affaires étrangères. C'est le plus jeune ministre.
Moi aussi, j'ai des fait Affaires un club étrangères, de la presse ici.
Voilà. Donc, au contraire, d'une manière très surprenante, enfin pour nous, très surprenante, au courant vraiment de la marche du monde. Et il était absolument étincelant quand il était jeune. Et puis, progressivement, son retour au pouvoir, c'est quand même, en effet, accompagné de pas mal de concussion et surtout cette façon de s'accrocher au pouvoir au-delà du raisonnable et toujours frappe toujours d'ailleurs les leaders de ce genre, mais c'est dommage.
Voilà,
il aurait pu partir bien.
En 2019, c'est la rue qui l'a fait partir alors qu'il avait eu un AVC en 2013 et qu'on ne l'a plus jamais revu. Les Algériens ne l'ont plus revu. Alors, est-ce que c'était lui qui voulait rester au pouvoir ou la famille pour conserver tous les corrupts? Enfin, je veux dire, c'est quand même...
Tous les privilèges
et tout ça, d'enrichissement que maintenant l'on sait. D'ailleurs, sa famille, son frère est en prison. J'avais été l'interviewé avec Jean-Pierre Elkabbach à Alger, et même avant son AVC, alors que on voyait qu'il était, il gardait une beaucoup de vivacité intellectuelle, et il était obsédé par la France. Car il ne supportait pas que Jacques Chirac soit ami avec le roi du Maroc. Et ça, il nous en avait parlé pendant une heure, c'était sa seule obsession. Et moi, je lui avais parlé des jeunes qui, le soir, étaient dans la rue et qui traînaient. Les cafés, pendant un temps, avaient été fermés. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette jeunesse pour laquelle ils ne faisaient rien? Et longtemps, quand il y avait des problèmes et que les jeunes se rebellaient parce qu'ils n'avaient pas d'emploi, on leur donnait un peu d'argent. Et puis après, ça repartait. On n'a rien fait pour eux.
Charles Villeneuve.
Moi, je vais vous raconter une anecdote, justement, concernant Jacques Chirac, président de la République, qui recherchait à tout prix un accord quasiment de paix et d'amitié avec le président de la République algérienne, notamment Bouteflika. Il avait envoyé son Sherpa, c'est-à-dire son conseiller diplomatique, Maurice Gourdeau-Montagne, qui, pendant 8 mois, a cherché à établir cet accord. Et ça s'est terminé, finalement, par cette phrase de Bouteflika: qui sera la monture et qui sera le cavalier? Et donc ça s'est arrêté là, il n'y a jamais eu d'accord, même si les diplomates français, ceux qui connaissent bien cette région bien sûr, savent que et l'Allemagne et l'Algérie sont les deux pays pour qui la France doit surveiller en quelque sorte les relations diplomatiques comme la prunelle de ses yeux.
Voilà donc pour vos réactions à la mort d'Abdelaziz Bouteflika. Venons-en à cette perte du contrat de Naval Group. Dernière information et de taille sur le sujet explosif des sous-marins français, c'est que la France rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis, en Australie, pour consultation. Philippe Etienne, l'ambassadeur à Washington, n'a pas déménagé sa colère cette semaine. Ce dernier épisode ne fait qu'accroître l'importance de ce dossier, t'imagines ?
Oui, non, mais les relations diplomatiques ne sont pas rompues quand on rappelle les ambassadeurs.
Pour consultation. Ils n'ont pas fait leur valise et ils ne sont pas rentrés à Paris.
On les renverra, on attendra de toute façon des explications des Américains et des Australiens. Mais ce qui l'est rompu, c'est la confiance. Indéniablement, elle l'est.
Jean-Yves Le Drian l'a dit. Hein.
Parce que la désinvolture avec laquelle les États-Unis notamment ont traité la France, c'est la désinvolture qu'on met dans ses rapports avec les laquais. Bon, parce que finalement, les Américains ne considèrent les alliés que comme des vassaux. Et la France est peut-être le moins vassal, si vous voulez, de tous, peut-être parce qu'elle a des intérêts très importants et stratégiques, on y reviendra, dans l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique qui est dans une ambiance extrêmement électrique, parce qu'en moins de 20 ans, faut le signaler, la Chine a augmenté ses dépenses militaires de 423%. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Australie a pris peur, d'ailleurs, et a demandé aux Français 12 sous-marins à propulsion classique transformés en 8 sous-marins à propulsion nucléaire par les Américains.
Catherine ?
Oui, la France ne rappelle pas l'ambassadeur britannique.
Oui, on sait pourquoi ?
Parce qu'on le tient pour quantité, je veux. Négligeable.
Ah, non, mais parce que, j'ajoute une information qui est quand même importante. Avec les Britanniques, nous avons les accords de défense Lancaster House, qui comprend évidemment un échange sur nos forces de dissuasion
respectives. Est-ce qu'ils sont compromis,
non,
du coup, vu
non,
ce triumvirat Canberra-Washington-Londres ?
Non, pour l'instant, c'est un cartel anglo-saxon pour la zone la plus stratégique dans les siècles à venir, c'est évident, sûr. Où nous avons des intérêts territoriaux très importants, la France, mais avec l'Angleterre, ça touche au nucléaire, les accords de défense, et même le Brexit ne les a pas écorchés.
Gérard Carrérou.
Moi, je voudrais simplement m'étonner d'un certain étonnement. Je vois effectivement les réactions un peu d'une forme de vexation de la France. Je peux les comprendre. C'est vrai que c'est jamais agréable d'apprendre un peu par la presse ou soi-disant par... Ça, je ne sais pas la vérité si ça a été dit autrement, s'il y a eu un canal de communication. Les Américains disent que oui, les Français disent que non. En tout cas, c'est jamais
agréable. Les Américains disent que les Français étaient prévenus.
Une rupture de contrat non prévue comme ça, c'est jamais agréable. Mais ce qui m'étonne le plus dans cette affaire, au-delà du fond sur lequel on reviendra, et Charles a commencé à parler du fond, c'est-à-dire de changement de stratégie, je dirais, planétaire, ce qui m'étonne, c'est la confiance imbécile d'un certain nombre de nos progressistes qui pensaient tout naïvement que formidable, après, ils avaient déjà eu à peu près la même attitude au moment de l'élection d'Obama, et qui pensait naïvement que la présence d'un ami démocrate, parce qu'il est démocrate. Alors les démocrates, pour la gauche française, c'est toujours des amis.
C'est exactement ça.
Et alors, on s'était dit, en plus, alors formidable, il a choisi des gens qui parlent français autour de lui. Oui. Il a son secrétaire d'État, il a Blinken, tout ça, ces gens-là connaissent bien la France, ils ont été élevés en partie. Enfin, avec eux, ça va baigner. Eh ben oui, ça baigne. On l'a vu ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a pris la baigne. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Les Américains ont décidé à un moment donné, mais s'il y a eu un glissement de Obama à Trump jusqu'à Biden, ont décidé que l'intérêt fondamental de l'Amérique, c'est ça qui compte pour eux, c'était de regarder vers la Chine et de voir comment se préoccuper de la menace chinoise. Et à partir de là, ils ont jugé plus utile de former ce bloc avec l'Australie, l'Angleterre et éventuellement peut-être dans un deuxième temps d'autres pays. Mais c'est pas anormal. Ce qui est anormal, c'est qu'on s'est laissé avoir. On aurait dû être informé. Je pense que notre diplomatie a failli. On aurait dû savoir quand même.
On va trouver la faille, finir par la trouver, Michel Cotta.
Non, puisqu'on est, quand même là sur la Chine, déjà arrivé à la Chine et au péril chinois tel qu'il est ressenti par les Américains. Moi, je voulais dire simplement pour les Américains, premier point, Biden, effectivement, tu as raison. On se prend maintenant, on va se prendre à regretter.
Trump, on est d'accord, mais on va dire un peu jusque-là.
Mais évidemment, il a quand même, faut pas oublier, et il a à faire oublier sa défaite en Afghanistan et la défaite des troupes et le retrait, comme ça, d'accord, erratique de ses troupes. Premier point. Deuxième point, c'est sûr que son intérêt est maintenant d'attirer, de changer la guerre froide et de faire la guerre froide contre la Chine. Dans ce cas-là, si localement la France a perdu son pouvoir, si localement l'Europe a perdu son pouvoir, c'est vrai que nous risquons d'être entraînés dans une guerre froide sans le vouloir.
Moi, je ne crois pas
et sans le savoir.
Froide, je dirai pourquoi.
Et vous direz pourquoi après la publicité, parce que déjà on est en train de m'engueuler. A tout de suite avec les grandes voix.
10h, 11h.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michel Cotta et Catherine Ney, on était en train d'évoquer le dossier des sous-marins. Les sous-marins qui nous passent sous le nez. Catherine Ney, vous vouliez réagir?
Oui, mais il faut aussi se demander le virement de pourquoi l'Australie a viré. C'est que depuis 2 ans, il se passe quand même dans les rapports entre l'Australie et la Chine quelque chose de crucial, c'est-à-dire que la Chine était le plus gros client de l'Australie. L'Australie lui envoyait du charbon, exportait du charbon, de l'orge, il y avait les touristes, il y avait énormément de choses, c'est son plus gros client. Et depuis que le Premier ministre a osé dire avec beaucoup d'indépendance qu'il fallait regarder quelles étaient éventuellement les responsabilités de la Chine sur l'histoire du Covid. Et peut-être, elle a repris qu'il fallait une étude indépendante, puisque l'OMS en était revenu en disant non, les Chinois sont absolus. Lui, il a dit faudrait une enquête indépendante.
L'OMS est revenu, ils n'ont pas pu vraiment investiguer.
Évidemment, puisqu'ils étaient dans les mains des Chinois. Bon, mais très bien. Oui. En tout cas, il faudrait une enquête indépendante. Et ça, les Chinois l'ont puni. Et là, ils ont vraiment unilatéralement vraiment supprimé toutes les importations chinoises. Il y a par exemple sur les langoustes qui étaient arrivées sur l'aéroport de Shanghai, un avion entier ça a pourri, on n'a jamais voulu le débarquer, ils ont dû repartir, voyez, des vexations comme ça, et tout d'un coup, l'opinion australienne a très très peur des Chinois. Et avec les bateaux qui sont dans tout, c'est quand même à 6000 km de la Chine, mais quand même ils ont peur des Chinois, ils se sont dit on a besoin des Américains.
Charles Villeneuve.
Oui, non mais tout ça est vrai, mais si vous voulez, ce qui fait peur aux Australiens, mais pas seulement aux Australiens, à tous ceux qui vivent et qui habitent la zone Indo-Pacifique, qui est un très vaste territoire où se passent énormément de choses, c'est, si vous voulez, les expéditions militaires, et notamment la flotte aussi bien sous-marine nucléaire chinoise, et un nombre de frégates qui se multiplient, qui rendent d'ailleurs quasiment lilliputienne le tonnage des flottes européennes, dans les mers du Sud, et jusqu'à aller naviguer près de Taïwan, de Hong Kong, etc., etc. C'est à partir de là que la presse, notamment australienne, a commencé à parler des expéditions d'intimidation des militaires chinois. Tout à l'heure, je vous ai dit plus 423%. Mmh. On a vu apparaître 2 porte-avions, d'ailleurs.
Oui.
Bon, ce n'est rien par rapport à la flotte américaine, il ne faut pas l'oublier. Il y a 14 porte-avions, dont la plupart sont nucléaires. Des 104 000 tonnes, nous avons un porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle, 43 000 tonnes. C'est vous dire, si vous voulez, le tonnage et la puissance américaine. Mmh. Personne en Occident et dans le monde occidental ne peut se passer des Américains, pas plus la France que les autres. Dans toutes nos opérations extérieures, nous avons besoin des Américains. Mais tout à l'heure, je disais, je ne crois pas à la guerre froide pour 2 raisons. Premièrement, parce que les États-Unis se servent beaucoup en Chine pour des appareils électroniques. Mmh. Et deuxièmement, les Chinois rachètent tous les bons du trésor qu'ils peuvent acheter américains. C'est eux qui rachètent la dette, en quelque sorte. Oui. Donc, une guerre froide, ça implique de se faire la guerre par territoire et pays interposés, comme on l'a fait au Vietnam, comme on l'a fait en Angola, en Afrique, ou dans d'autres, si vous voulez, continents. Donc c'est pour ça que je ne crois pas à la guerre froide. Je crois aux tensions, bien sûr, nous en vivons une, mais ce n'est pas la seule tension que nous allons vivre.
C'est votre avis, Gérard ?
Alors, écoutez, moi je crois que l'Amérique, c'est comme un paquebot, un énorme paquebot.
C'est le cas
de dire. On ne peut pas le faire, oui, mais un paquebot mondial, si vous voulez. On ne peut pas le faire changer de cap
de sa route.
En quelques jours, en quelques mois, en quelques années. Il y a un mouvement qui s'est amorcé au début, effectivement, du 21e siècle. Après une période où les Américains se sont dit « la guerre froide, c'est fini, la Russie, c'est foutu, l'Empire soviétique est désingué après le mur de Berlin, etc. » Pendant 10 ans ou 15 ans, ils se sont dit « on est les maîtres du monde et on n'aura plus jamais d'adversaire au niveau planétaire ». Ça a changé déjà, et je parlais d'Obama tout à l'heure, ça a commencé à changer et on se demandait dans la presse française, on disait « mais pourquoi Obama finalement s'intéresse aussi peu à l'Europe? Pourquoi est-ce qu'il regarde toujours vers le Pacifique ?» Ce regard-là a commencé à dériver à partir d'Obama et à partir effectivement, même de il y a un continuum américain, même à partir de Trump et jusqu'à Biden, la Chine est devenue une obsession américaine. Alors, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir toujours une obsession après avoir eu l'Union soviétique? En tout cas, c'est devenu une obsession. Et dans l'opinion, dans la presse, partout, c'est et la Chine, et la Chine.
Ça avait même commencé du temps de George Bush, et ça a été arrêté à cause du 11 septembre.
Ils ont liquidé, effectivement, ce qu'ils ont pu. Ils sont partis en courant du Moyen-Orient dès qu'ils ont pu, mais ils sont revenus. Et là, aujourd'hui, on est en plein dedans. Et cette alliance qu'ils sont en train de forger, cette OTAN, cette espèce de simili-OTAN du Pacifique, alors la principale défaite, c'est ça le problème, c'est que c'est l'Europe qui est en dehors, qui est larguée dans tout ça. Oui. C'est la France, bien sûr, parce que c'est le contrat français, mais c'est l'Europe. Oui. L'Europe n'a plus de voix dans cette
partie
du monde.
D'où le rôle de Londres aussi dans tout ça.
Absolument.
Michel Cotta.
Moi, je vois deux choses, deux aspects importants au fond. Pourquoi est-ce que l'Australie a rompu ce rapport, cet accord? C'est sans doute à cause du nucléaire. C'est parce que nous leur proposions des sous-marins normaux, alors
mais
que l'Amérique...
Mais c'est ce qu'ils voulaient, ils avaient demandé des sous-marins normaux.
Ils avaient demandé ça, pardon, une seconde. Ils avaient demandé ça il y a des années, mais justement, leur peur a changé dans l'intervalle. Voilà. Et leur peur a changé du côté de la Chine, et par conséquent, c'est contre la Chine qu'au fond, ils se sont dit c'est mieux d'avoir du nucléaire. Ça pose quand même un problème de discrimination.
Mais non, mais la France était tout à fait capable de faire des sous-marins nucléaires.
Nous sommes capables, mais il y a un accord de principe entre les 6 puissances nucléaires mondiales. C'est de ne pas aider à la prolifération nucléaire.
On a aidé à la prolifération, justement.
De fournir 8 sous-marins à propulsion nucléaire auront cet accord de principe. Et c'est assez important comme principe. Mais de la même manière, nous sommes en quelque sorte boutés de la zone stratégique. Il y a des évolutions stratégiques aussi et tactiques de la zone Indo-Pacifique. Mais nous avons un allié avec lequel nous travaillons. L'un nous a lâché l'Australie, faisait partie de l'axe sur lequel travaillait la diplomatie française. C'est l'Inde. C'est l'Inde à qui nous fournissons du matériel militaire, des avions, du Rafale et des réacteurs nucléaires civils.
C'est pour ça que
très important,
je voulais finir.
L'alliance France-Inde.
Je voulais finir, parce que j'avais dit qu'il y avait deux choses. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on ne peut pas, l'Europe ne peut pas, et la France ne peut pas être exclue de ce périmètre-là. Et par conséquent, effectivement, notre seul allié maintenant, c'est l'Inde, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que tu as dit.
Et dernière chose, c'est que cet accord veut dire aussi que l'Australie se met sous la dépendance américaine parce que ses sous-marins nucléaires auront un commandement américain et des mariniers américains.
Vous restez avec nous, c'est Europe 1. Les grandes voix reviennent dans un instant.